leur chant. Bonjour, hors champ, aujourd'hui avec William Ledeuil. William Ledeuil, vous êtes cuisinier?
Oui.
C'est comme ça que vous dites?
Cuisinier, exactement.
C'est le chef
terme. Non, c'est pas un mot que j'aime beaucoup, chef.
Oui, mais pourtant vous l'êtes.
Oui,
enfin, vous l'êtes devenu. Ça a été un long parcours.
Mais cuisinier, je crois que c'est le plus beau mot.
Pourquoi?
Parce que chef, ça peut correspondre à plein de professions, alors que cuisinier, on identifie des chefs, il en existe dans toutes les activités.
Oui, mais n'empêche que vous avez tout fait pour devenir chef.
C'est vrai. C'est un mot qui me... Voilà, j'ai, avec une jeune génération avec qui je travaille en cuisine, c'est vrai que le mot chef, je dirais les plus capés, j'aime bien qu'ils m'appellent presque par mon...
Par mon
prénom. Les plus capés, ceux qui ont le plus d'expérience avec moi, m'appellent par mon prénom plutôt que chef.
D'ailleurs, impossible de vous distinguer à l'intérieur de la cuisine de votre restaurant, car on a l'impression que c'est de l'autogestion. Je dis restaurant... qu'on peut vous apercevoir en train de travailler, parce que vous avez souhaité dans votre restaurant, comme d'ailleurs de plus en plus de chefs aujourd'hui, que tout soit transparent et que nous puissions voir la manière dont vous préparez les plats.
Je crois que c'est important, d'ailleurs c'est aussi une des raisons pour lesquelles le restaurant s'appelle Galerie. C'est-à-dire que le travail de la cuisine fait partie effectivement de l'activité du restaurant. Et pour moi, c'est très important. Alors, quelque part, je suis un petit peu claustrophobe et j'ai travaillé dans les cuisines en sous-sol, j'ai travaillé dans les cuisines fermées, les cuisines laboratoires. Et pour moi, il était très important de pouvoir ouvrir cet espace, non seulement pour les clients, mais pour nous-mêmes. C'est-à-dire que moi, de l'autre côté, effectivement, même les cuisiniers, on identifie, vous savez, dans un restaurant, la fonction, c'est on annonce des numéros de table. Et nous, en fait, on travaille pour des visages. Et je trouve que c'est très important pour les cuisiniers.
Votre cuisine ne ressemble pas à la mienne, hélas pour moi. Mais votre cuisine ne ressemble pas non plus à celle de votre grand-mère. Elle était comment, la cuisine de votre grand-mère?
Écoutez, ma grand-mère, moi, si j'ai un souvenir, c'était pas vraiment une cuisine. C'était simplement un poêle à bois. Et ça mijotait effectivement sur le coin du poêle.
Ça sentait bon.
Ça sentait très bon. Alors, je devais avoir une petite dizaine d'années, et elle me préparait toujours ce qu'on appelle les œufs meurettes. L'œuf au vin rouge était quelque chose que j'adorais, qu'elle me préparait.
Et la cuisine de votre mère?
Alors la cuisine de ma mère, c'est comment je vais la dire? C'est pas une identité propre, c'est une cuisine spontanée. C'est une cuisine. Mes parents étaient bouchers, pas le temps de faire du jardin, mais on habitait la campagne. Donc en fait, on avait la chance d'avoir des tous les gens ont des jardins autour, et donc c'était un petit peu, vous savez, c'est un peu du troc. On échange de la viande, un beau rôti de veau, une belle volaille ou un beau rôti de bœuf contre des petits pois, contre des carottes, contre des choux. Donc j'ai aussi de magnifiques souvenirs comme, alors vous savez qu'en boucherie, on mange toujours un petit peu ce qu'on appelle les bas morceaux, mais qui sont aussi sans doute les morceaux qui ont le plus de goût. Donc j'ai toujours de souvenirs de poitrine de bœuf, de poitrine de veau qui cuisent toute une matinée avec les légumes, la viande est confite. Voilà un petit peu les souvenirs que j'ai de la cuisine de ma mère.
C'est drôle parce que vous faites une cuisine, William Ledeuil, qui n'est pas très carnivore. On reviendra sur votre réinvention de la cuisine. Mais en tout cas, vous n'utilisez pas beaucoup la boucherie. Et que pensez-vous de ces scandales qui ont été révélés il y a quelque temps, de ces manières d'abattre les animaux, y compris dans des endroits qui sont destinés aux grands chefs comme vous?
Je peux en parler parce que je faisais l'abattoir avec mon père. Et effectivement, il y avait des...
Ça veut dire quoi, faire l'abattoir?
Faire l'abattoir, c'est-à-dire qu'effectivement, l'abattoir était là et mon père avait la chaîne de A à Z, c'est-à-dire que... Il achetait les animaux sur pied, ils étaient élevés, ils étaient engraissés. Et donc un abattoir était à côté. À l'époque encore, les bouchers allaient abattre eux-mêmes les animaux. Donc ça, je l'ai connu assez tôt, j'avais 13-14 ans. Il y avait un certain respect. Et il y avait toujours un mot qui m'avait frappé, c'est que soit les bouchers tuaient eux-mêmes, soit il y avait deux personnes qui étaient dans cet abattoir qui étaient destinées, et on les appelait les tueurs professionnels. Voilà. C'était un mot qui m'est... C'est vrai que quand j'ai revu ces images, ces scandales, ce sont des mots qui me sont revenus. Tueur professionnel pour des animaux, ça m'avait perturbé. Mais je sais que mon père m'a attaché un soin très particulier. Effectivement, on peut abattre un animal sans souffrance.
C'est possible.
C'est possible.
Vous l'avez vécu.
Je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vécu. Alors, on va me dire effectivement, quelqu'un qui est abattu, enfin, un animal qui est abattu souffre, mais c'est quand même des procédés qui sont faits. Voilà, l'animal, effectivement, je pense que l'animal sent, effectivement, ces derniers instants. Mais il y a une façon quand même, un respect pour abattre l'animal.
Comment avez-vous décidé qu'un jour vous deviendriez cuisinier ? Et j'imagine que votre père devait être déçu que vous ne repreniez pas la boutique.
Je dirais que c'est un peu lui qui a... Il est un peu à l'origine du déclic et de mon orientation vers ce métier, parce que j'étais parti pour faire de la gestion hôtelière, du management hôtelier. Et puis, entre-temps, mon père découvre un article dans le... Je crois que c'est dans le Parisien, un article qui parle de l'école Ferrandi, qui est de la chambre de commerce, et qui parle de l'école supérieure de cuisine française, qui est une école de cuisine qui se crée, qui est destinée à former des futurs managers en cuisine, en restauration. Et puis, donc je me présente à deux concours d'entrée. L'ESSEC avait une filiale hôtelière, et j'arrive en retard au concours d'entrée. Entre-temps, je me présente au concours de l'école Ferrandi. Je suis pris, je ne me représente pas à la deuxième session de la filiale de l'ESSEC, et je rentre à Ferrandi en cuisine. Et là, on nous dit, voilà, vous allez passer un CAP sur 6 mois. Je dis, qu'est-ce que je fais? Je reste ou je m'en vais? Je reste, et puis c'est parti comme ça. Donc tout vient du fait que mon père avait découvert cet article dans le Parisien, et j'étais parti, j'avais présenté ma candidature à cette école. Donc vous voyez, il est un petit peu à l'origine de...
Ça s'apprend, la cuisine?
Ça s'apprend, effectivement, il y a des choses à apprendre, mais ça se vit. Je dirais, moi, je suis plus un cuisinier de feeling et d'instinct qu'un grand technicien. Mais aujourd'hui...
Vous avez appris les bases à l'école Ferrandi.
On apprend les bases. Les bases sont très importantes. Savoir cuire, assaisonner, préparer, tailler, découper, mettre en forme. Notre métier, c'est ça. Hein. On a une matière première. Après, à nous de jouer avec, de la mettre en scène, avec chacun sa sensibilité et son feeling. D'ailleurs, je dis toujours, moi, la cuisine, c'est un métier d'expression. À travers cette expression de cuisine, on exprime beaucoup de choses. Hein, on exprime un environnement, on exprime des voyages, des humeurs, des envies, et tout ça se retranscrit dans la façon dont on cuisine. Pour ça, je dis, vous avez des cuisiniers techniciens, des cuisiniers spontanés. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on retrouve un petit peu, je vais faire un parallèle un peu avec la peinture, on retrouve des différents courants.
Nous allons écouter la voix de Bernard Loiseau. Il va évoquer les conseils précieux de son père quand il était enfant. Bernard Loiseau qui, hélas, s'est suicidé, parce que cuisinier, c'est un métier à haut risque. C'est une archive du 1er janvier 1994.
Mon père, c'est lui qui m'a fait découvrir cet esprit de la bouffée d'oxygène, quoi. Il faut sortir d'un monde qu'on a, c'est indispensable. Là, je vois dernièrement, j'y étais, mais il me dit, Bernard, il faut sortir, là. Allez, prends ton anorak, prends des chaussures, et puis on va aller marcher, on va aller dans les montagnes, là, respirer le bon air, les bonnes choses, que tu oublies tout, que tu t'enlèves de ta tête toutes ces choses qu'il ne faut pas que tu aies, quoi. Et donc, depuis l'enfance, mon père m'a toujours incité au sport, le sport, le sport. Alors que là, maintenant, j'ai repris des kilos, je me suis empâté, je me suis retrouvé dans un système qui est pas le mien, quoi. En deux mots, dans la vie, il faut être en harmonie avec soi-même.
Nous venons d'entendre la voix de Bernard Loiseau. L'avez-vous connu, William Le Deuil? Vous a-t-il influencé? Je ne sais pas quel courant il représentait à l'intérieur de la cuisine française, mais je crois que il a imprimé une sorte de signature.
Oui, moi j'ai
par rapport à la beauté du produit, justement.
Exactement, j'ai souvenir de Bernard. Alors déjà, au-delà de la cuisine, c'est aussi cet enthousiasme et ces images-là que j'avais, moi, de Bernard Loiseau. Voilà, un enthousiasme fou qui était passionné de la cuisine, passionné du produit. D'ailleurs, on le sentait dans ses paroles. Et puis, j'ai ce petit souvenir où on blaguait, enfin, genre, où on lisait ça, c'est les blagues sur la cuisine. C'était la cuisine à l'eau. On disait, mais moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est de Bernard Loiseau, c'était ses débuts de cette cuisine, une cuisine saine, une cuisine bien-être, mais avec du goût, avec des parfums.
Sans pour autant être light.
Non, mais je dis ça parce que j'ai plus la mémoire en tête. Je sais pas si c'était Paul Bocuse était très ami avec Bernard Loiseau, où il avait que de sauce qui coule sous le pont du Rhône. Il me semble que c'était une expression comme ça. Voilà, c'était. Mais je crois que c'était effectivement. Il était l'initiateur de cet esprit de cuisine, cette cuisine, ce que j'appelle cuisine bien-être, cuisine saine, mais cuisine goûteuse où le produit est essentiel. On le débarrassait un petit peu de ces sauces un peu lourdes. C'était un peu le point de départ, je crois.
Et moi, vous avez inventé des choses en cuisine. Alors, au bout de quelles étapes initiatiques vous avez réussi à inventer et avez-vous eu des maîtres ?
On n'invente rien, je crois qu'on ne fait qu'interpréter. On se réfère toujours à quelqu'un, à quelque chose que l'on a vu, à un état d'esprit, que ce soit en France, que j'ai pu découvrir à l'étranger. Mais je trouve qu'on se réfère toujours à quelque chose. Donc pour moi, l'invention en cuisine, c'est plus de l'interprétation. Alors, j'ai plusieurs personnes. Le premier, c'est Guy Savoie, puisque c'est lui que j'ai fait mon premier stage chez lui. C'est chez lui où j'ai le déclic de la cuisine. C'est lui qui m'a initié. Et je dirais, Guy Savoie, c'est une cuisine, effectivement, ce que j'appelle une cuisine de goût avec des... Si je vais comparer un peu avec la musique, on a des basses et des aigus dans les goûts. Et lui, c'est une cuisine une cuisine de goût, une cuisine avec de l'acidité, du punch, ce que j'aimais beaucoup. Après, il y a des chefs comme Michel Bras, comme Michel Guérard, comme Olivier Rollinger, que j'aime beaucoup par rapport à leur philosophie, par rapport à leur état d'esprit, par rapport à la nature, à la Passard également, où la nature est au centre. Et bon, moi, je crois que c'est aussi mon côté un petit peu où je viens de la campagne, où j'ai vécu. Mon terrain de jeu était la campagne quand j'étais gosse. Et je crois que je suis effectivement très réceptif à ces philosophies de cuisine.
Alors, on peut dire que vous avez inventé un nouveau type de cuisine, justement par rapport au contraste entre les goûts. Vous parliez de l'acidité, c'est quelque chose que vous revendiquez haut et fort, et aussi par rapport au liquide. Chez vous, moi, personnellement, j'apprécie beaucoup, mais manifestement, je ne suis pas la seule. Vous avez réhabilité, en quelque sorte, non pas la soupe, mais le bouillon. Et le bouillon, c'est pas le bouillon magie, un peu fadasse. Non, c'est l'éloge de la multiplicité des saveurs que nous pouvons avoir dans la bouche quand on goûte vos bouillons.
Alors, je crois qu'il y a trois phases. Effectivement, moi, à la campagne, aucun dîner ne se passait sans qu'on ait un bouillon, une soupe, un potage. Il avait toutes formes diverses.
Ça ouvrait le repas.
Ça ouvrait le repas.
Et donc, l'odorat, le goût.
Le goût. Et donc, avec les éléments essentiels pour faire des bons bouillons, de jolies matières premières. Des légumes, des herbes, du jardin. On avait tout à proximité. La deuxième phase, dans la cuisine française, le bouillon est un peu comme un aide culinaire. On l'utilise dans beaucoup de préparations, mais il reste un aide culinaire. C'est pas une finalité. Par contre, après tous mes voyages que j'ai pu faire, que ce soit au Japon, au Vietnam, en Thaïlande, le bouillon, là, effectivement, est quelque chose d'essentiel. C'est le repas. On va au Vietnam, le feu vietnamien, c'est le bouillon avec multitude d'herbes, de légumes, des protéines, des viandes, des poissons, des coquillages. C'est un goût exceptionnel. C'est un repas à part entière. On va en Thaïlande, ce qu'on appelle la street food. On découvre à chaque coin de rue des petits marchands ambulants qui vendent leur bouillon, leur soupe. Alors, ils ont plein de formes. Ça peut être un curry thaï, donc avec un bouillon lait de coco citronnelle. Ça peut être le tom yam, donc des bouillons avec des bouillons clairs. Voilà, il est un peu partout. Dans la cuisine japonaise, on a le dashi qui est également dans la base de la cuisine japonaise, qui va entrer dans plein de préparations. Et je crois que c'est un petit peu, je dirais, la synthèse de tout ça qui fait que le bouillon chez moi est devenu quelque chose d'essentiel. D'ailleurs, quand j'ai ouvert le restaurant en 2001, j'avais supprimé un peu cette entrée plat-dessert. Et moi, les entrées étaient sous forme, les rubriques bouillon, poisson, coquillage mariné et pâtes. Donc le bouillon était déjà très présent. Et c'était par une interrogation, c'est-à-dire que je m'étais aperçu qu'effectivement, dans les diverses expériences que j'avais pu avoir avant, je m'étais posé la question, mais pourquoi j'ai toujours des, il y a toujours des bouillons, il y a toujours des soupes, il y a toujours des, il y a toujours ces liquides avec tous ces ingrédients dedans sur mes cartes. Donc c'est parti comme ça l'idée un petit peu.
Nous allons écouter Nicolas Bouvier. C'était au micro de Patrick Fleuriot qui va faire le récit d'un repas dans un restaurant japonais lors d'un voyage à Tokyo. C'était dans Nuit Magnétique, 29 septembre 1989.
Je vivais à ce moment-là de façon assez frugale, dans une bonne frugalité d'ailleurs. Ça n'est pas la misère ni la débile, bon, c'était la frugalité japonaise. Alors je m'enfonce dans ces petites ruelles couvertes de fils électriques. Et j'avise une de ces devantures où vous avez des modèles en plastique peints dans des tons horribles qui donnent l'image de ce que vous trouverez dans votre assiette. Et je vois là une belle côtelette de porc avec des épinards pour un prix raisonnable. Alors j'entre dans un dédale de petits couloirs sombres, vous savez, tout est très bricolé dans ces petits bistrots japonais. Je commande ça et je vois arriver une assiette avec une portion de viande qui était le tiers de celle qui était exposée dehors. Alors, bon, j'étais un peu embêté, je paye, et puis ensuite je me suis dit non, quand même, c'est de l'esbouffe, je ne peux pas laisser passer ça, mais en tout cas, je ne vais pas me conduire en occidental, je ne vais pas faire d'esclandre. Alors, je fais très poliment venir la serveuse, je lui dis veuillez me suivre, je prends mon assiette, je n'avais pas encore touché à ma viande. On s'engage dans ces petits couloirs sombres, elle ne savait pas très bien si je voulais la ploter ou. On arrive dans la rue, il s'était mis à pleuvoir des hallebardes, parce que le temps change très vite au Japon. Et puis je lui montre ce modèle, je lui montre mon assiette, et je lui dis, bon ben, alors on fait quoi? Après ça, on fait quoi? Et puis je reviens m'asseoir, elle me précédant, et j'attends. Et je me suis dit, ils ont deux solutions. Ou bien ils me rapportent de la viande, ou bien ils me rendent de l'argent. Et ça, c'était un raisonnement d'occidental, ils ont changé la serveuse. Et j'ai pas eu le courage de recommencer toute cette histoire. Et je me suis dit, voilà, bon, notre esprit devant un problème ne fonctionne pas toujours de la même manière.
Voilà, c'était le témoignage de Nicolas Bouvier, grand écrivain du voyage, ô combien. Est-ce que vous avez vécu ce genre d'expérience à travers vos voyages dans tout cet Orient, William Ledeuil?
C'est marrant quand il parle de ces toutes petites rues, effectivement, Tokyo, cette ville assez gigantesque. Et effectivement, où on a gardé ces toutes petites rues, effectivement, avec tous ces fils, ces petites maisons, des restaurants absolument improbables.
Et minuscules.
Minuscules. D'ailleurs, je pense sur ces modèles-là, à Paris, on ne fonctionnerait pas. C'est des endroits où on n'irait pas. Et là, effectivement, on est escorté, on nous emmène dans ces endroits assez improbables. Et là, vous découvrez des choses aussi, des choses extraordinaires. Moi, je garde ces grands souvenirs de Tokyo, de Sapporo, qui était mon premier voyage que j'avais fait au Japon, de Kyoto, avec cette culture du Japon, moi, qui me fascine en même temps.
Mais alors, vous partez sans bagages, vous partez au gré du vent, vous allez faire les marchés, vous humez.
C'est quand même organisé. C'est-à-dire que c'est souvent pour des semaines professionnelles, où on est quand même bien guidé, bien accompagné, où on essaie de nous faire découvrir le maximum de choses sur une dizaine de jours. Mais effectivement, on fait tout, que ce soit les marchés aux légumes, les marchés de poissons, la cuisine japonaise, parce qu'effectivement, quand on est en France, la cuisine japonaise, on la résume à quelques mots, et ça n'est rien, parce que c'est une diversité aussi assez exceptionnelle. Et moi, ce qui me passionne là-bas aussi, c'est cette culture du produit. Au Japon, on ne triche pas. Il y a une exigence sur le produit qui est, voilà, c'est une vraie intransigeance. Et je m'en suis beaucoup inspiré, moi, dans la façon de travailler les produits, et notamment les poissons et les légumes.
Alors, en fait, vous n'adaptez pas des modes de cuisine non occidentale. Vous inventez, à partir de ce que vous avez compris des cuisines non occidentales, autre chose. Comment se fait ce travail d'invention? Est-ce que ça vous demande un temps de maturation? Est-ce que vous écrivez? Est-ce que vous prenez des notes? Est-ce que vous avez plusieurs tentatives avant de parvenir à, justement, à une alliance de goût, de texture?
Il y a plusieurs étapes. Un pays, quand vous le voyez pour la première fois, c'est comme une région. On va faire les endroits absolument à ne pas manquer. Et puis après chaque voyage, où là on va voir un petit, on comprend, on va un peu plus en profondeur, on découvre un petit peu plus davantage la culture. Donc effectivement, l'idée c'est cela, c'est de découvrir cette culture de cuisine, cette culture du repas, puisque c'est global, c'est pas uniquement de la technique, c'est aussi la façon de manger, la façon de se nourrir, la façon d'apprécier, de choisir les produits. Et puis après, c'est après...
Et le rite du repas.
Et le rite de repas qui est totalement différent à nous occidentaux. Et puis moi, après, c'est de digérer un petit peu tout ça. Et puis en fonction de ma culture à moi, c'est de le retranscrire, de le retraduire en essayant de le transcrire très personnellement. D'ailleurs, je retiens une phrase de Michel Guérard qui m'a beaucoup touché la dernière fois, il est venu déjeuner, où il m'a dit, écoutez, c'est très bien par rapport à tous les grands classiques, vous avez trouvé votre signature, notamment dans les bouillons et dans cette façon d'assaisonner. Et ce que j'essaie de comprendre, effectivement, dans ces différentes cuisines, c'est de voir, c'est de comprendre l'essentiel, les ingrédients, les produits ont une fonction, et c'est d'essayer de les reprendre et puis de leur faire remplir une fonction dans ma cuisine. Donc je pars de cuisine, de technique française, et après moi j'adapte un petit peu tout ce que j'ai pu voir, tout ce que j'ai pu ressentir, tout ce que j'ai pu percevoir pour élaborer ma cuisine. Mais en même temps on part jamais, comment je vais dire, c'est jamais quand je décide de me mettre devant une feuille blanche où ça va fonctionner. C'est très spontané, donc ça peut être à tout moment.
Mais il faut changer. Faut pas tenir sa réputation et répéter à l'infini.
Non. Mais moi, je suis très curieux, je m'ennuie quand je refais les mêmes choses. Et puis, les voyages supplémentaires me permettent d'aller vers autre chose. Je vous ai dit, je n'ai pas une cuisine de technique, c'est une cuisine de feeling, de spontanéité. Donc, c'est beaucoup plus...
Artiste.
Je ne sais pas si c'est artistique, peut-être que la démarche, c'est un petit peu artistique. Mais c'est une cuisine qui me permet de la faire bouger très, très facilement et très rapidement.
Nous allons écouter Guy Savoie, auprès de qui vous avez travaillé pendant plus de 10 ans. Qui va répondre à la question « Comme un couturier, vous avez donc vos saisons ?» Réponse de Guy Savoie, c'est une archive du 18 mars 1988.
On ne peut pas avoir en plein été la même carte qu'en plein hiver. Déjà, l'hiver, on a besoin de nourriture plus solide, et les produits ne sont pas les mêmes. On vient de terminer la période, on termine la période des coquilles Saint-Jacques, de la truffe, des lentilles. Moi, je travaille les mois d'hiver, je travaille 2 plats avec des lentilles, tout ça. Et là, au printemps, on va commencer avec les asperges, avec les légumes nouveaux, tout ça. Donc, ce ne sont pas les mêmes cartes, parce qu'il n'y a pas les mêmes produits et qu'on n'a pas envie de manger les mêmes choses. En fonction du temps qu'il fait à l'extérieur. Vous n'avez pas envie de manger des lentilles au mois d'août lorsqu'il fait 30 degrés. À chaque changement de carte, il y en a environ 3 ou 4 par an. Il y a en tout cas 5 ou 6 plats complètement nouveaux.
Alors ça, vous êtes d'accord là-dessus? Moi, je mange des lentilles en plein été. Hein.
On peut une salade de lentilles, c'est vrai.
C'est bon.
Je suis d'accord, en ce moment je suis d'accord, je vais même plus loin. C'est-à-dire que, effectivement, moi, à une époque, les grands restaurants, c'est de changer 4 fois à peu près à chaque saison la carte. Nous, on est parti sur des choses encore beaucoup plus simples, c'est-à-dire que on imprime tous les jours et j'ai une façon de travailler avec mes maraîchers. Je travaille avec 5 maraîchers différents. Je ne passe aucune commande. Mes maraîchers ont une production à chaque moment de la saison et eux, leur mission, c'est de m'envoyer un panier avec toute leur production. Et après, nous,
c'est comme les bio, quoi. Le panier bio.
C'est le panier
bio.
D'ailleurs, on travaille uniquement avec des bio et c'est exactement cela. Et après, à nous de concevoir, de faire le. On a le marché devant nous et on s'amuse avec. Et donc, aucune commande précise, uniquement un panier de production.
Donc, la carte dépend de ce que les maraîchers vont...
Complètement. Mais en même temps, nous, on est à l'écoute.
Vous donner.
On sait, on s'appelle toutes les semaines, on sait exactement ce qu'ils ont. En plus, ils sont fiers. Vous voyez, moi, on a eu deux petites boîtes de petits pois de notre maraîcher qui est à Nantes ce matin. Pas plus, parce qu'il n'y en a pas plus pour l'instant.
Enfin, des boîtes, pas des boîtes...
De petites barquettes.
Ah oui, voilà, préciser. Vos petits pois ne sont pas en boîte.
Non. Deux petites barquettes de petits pois parce que c'est les premiers, mais en même temps ils sont super contents. Voilà, j'avais 6 tiges de rhubarbe.
Mais c'est pas pour tout le monde là.
Non, c'est pas pour tout le monde, mais à moi de faire un petit peu en fonction. Mais en plus on a la 5, ils sont tous complémentaires et on travaille de cette manière. Et en même temps non seulement c'est passionnant pour moi, en même temps ça me permet moi de pouvoir transmettre ce message aux jeunes cuisiniers qui travaillent avec nous, de transmettre ce message où effectivement on ne travaille qu'avec la saison, qu'avec la nature. La nature, il faut la prendre au moment où elle est, il faut savoir la capter, la comprendre, savoir ce qu'elle nous donne, et à nous de jouer avec ce qu'elle nous donne. Mais de pas, c'est pas à nous de rythmer ce que l'on veut faire. C'est la nature qui rythme ce que l'on va faire.
À quel moment avez-vous décidé de quitter Guy Savoy et de voler de vos propres ailes ?
En 2001. J'ai eu ce déclic de cuisine quand j'ai commencé chez lui. Et puis, quand j'étais avec Guy Savoy, je m'occupais de 3 établissements différents. Et en fait, je me suis aperçu qu'à un moment donné, je faisais plus qu'effectivement du management d'hommes, de mettre un standard de cuisine de qualité. Mais j'avais oublié un petit peu, quelque part, ce déclic, cette passion de la cuisine que j'avais laissé un peu de côté. Et j'ai eu besoin de me recentrer sur cette cuisine, quelque chose que je n'avais pas, non seulement je n'avais pas terminé, mais je l'avais à peine commencé. Et c'était un petit peu le départ de l'histoire de The Kitchen Gallery.
Donc vous êtes auto-institué cuisinier?
Complètement. C'est un métier, je vous dis, je n'avais pas exercé suffisamment comme je voulais. Et là, pour moi, c'était une forme de liberté, en fait, à travers la cuisine. Pour moi, la cuisine, c'est un jeu. J'ai acquis une expérience auprès de Guy Savoy, une expérience personnelle après tout ce que j'ai pu faire à travers les voyages, les lectures,
La peinture, parce que c'est pas pour rien que votre restaurant s'appelle Galerie et qu'il y a effectivement des tableaux au mur.
C'est vrai, on s'aperçoit qu'on a des démarches assez communes en même temps avec les artistes peintres dans la façon de faire, dans la façon de composer. Et puis, fort de toute expérience, j'avais effectivement de vivre ce métier en toute liberté. Et pour moi, la cuisine, c'est vraiment un métier effectivement de, même si c'est un métier qui peut être exigeant quelque part dans les coulisses, c'est un métier de grande liberté qui permet d'avoir accès, de rencontrer des gens qui ont les mêmes passions.
Face à un métier de galère, on travaille combien d'heures par jour ?
Bon, galère, écoutez, moi non, je considère pas ça comme galère. Je ne compte pas forcément les heures. Je veux dire, quand on est passionné, quand on aime, après, on fait moins attention aux heures.
Un métier très angoissant aussi, puisque vous avez obtenu il y a quelques années une première étoile. Est-ce que vous tremblez à chaque fois qu'il y a la publication du guide Michelin pour savoir si vous la conservez, ou est-ce que vous espérez en avoir une seconde ?
Alors écoutez, ça n'a jamais été un objectif pour moi-même, pour les étoiles Michelin. Vous avez des chefs qui font effectivement, qui ont des parcours Michelin, c'est-à-dire que les objectifs sont les étoiles. Moi, ça n'a jamais été un objectif ni quelque chose qui me passionnait. C'est-à-dire que j'ai toujours fait mon travail comme j'avais envie de le réaliser. Un jour, Michelin s'est intéressé peut-être à ce que l'on faisait. On décide de donner une étoile.
Et par définition, vous saviez pas qu'ils étaient venus
Non, je ne savais pas. C'est arrivé comme cela. Très bien, je veux dire, ça permet de reconnaître un travail auprès des clients, auprès des équipes. Mais je n'ai pas changé non plus ma façon de travailler pour autant. Je me suis pas dit, tiens, il y en a une, peut-être que on peut essayer de voir pour en avoir une deuxième. Non, j'ai continué de faire le travail comme j'ai envie de le faire aujourd'hui, comme je le fais aujourd'hui. J'ai pas envie de changer. Donc, la deuxième étoile n'est pas un objectif. Je vais pas mettre en œuvre quoi que ce soit pour essayer d'en obtenir une deuxième.
Ben merci beaucoup, William Le Deuil. Donc, je rappelle que vous êtes l'auteur de plusieurs livres, Les couleurs du goût, Le Psy Blue, La cuisine de William Le Deuil, The Kitchen Gallery, c'était au moment du 10e anniversaire de votre restaurant, et puis le dernier qui vient de paraître, qui s'intitule tout simplement Bouillon. Merci beaucoup, William Le Deuil.
Merci.
Merci à toute l'équipe de Hors-Champ, merci à Élodie Royer, Corinne Amar, Samuel Bernard, Didier Lagarde, Anne Kobilac et Delphine Baudet. Vous écoutez France Culture. Bon après-midi.